Merci à vous, c'est toujours un honneur et donc une énorme responsabilité que de prendre la parole à Davar. D'abord, c'est un plaisir de retrouver les visages connus. Et je voudrais précisément rappeler un visage inconnu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, Tamar est quelqu'un d'absolument central. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'elle est pour moi effectivement centrale dans le livre de la Genèse. C'est quelqu'un qui est vraiment, qui quasiment constitue le nœud même de toute la narrativité du livre de la Genèse. Et donc je voudrais la faire sortir de l'ombre, hein, pour la mettre en lumière. Le chapitre 38, c'est le chapitre 38 de la Genèse, est un chapitre qu'on a difficulté à commenter parce qu'il semble inscrire une rupture dans le récit, dans la narrativité de la Genèse. On vient de rentrer dans le récit de Joseph, l'histoire de Joseph et de ses frères, et puis tout d'un coup on a l'impression que cette histoire s'interrompt avec l'histoire de Judas qui descend de ses frères et qui a cette histoire un peu scabreuse avec Tamar. Et on se demande ce qui se passe. Or, c'est central parce qu'à la fin du chapitre, on nous annonce tout simplement que de cette histoire vont naître deux enfants, Pérets et Zérar. Et on sait par ailleurs que Pérets va être l'ancêtre de David, et donc, dans la tradition juive, mais aussi la tradition chrétienne, l'ancêtre du Messie. Et donc c'est une histoire qui semble marginale au départ. On ne sait pas vraiment où la mettre, pourquoi elle arrive là. Et puis elle est tout à fait centrale. Puisque à la limite, et c'est intéressant, on est au chapitre 38, c'est comme si le livre de la Genèse était déjà fini. On a l'ancêtre du Messie. Et on ne comprend pas pourquoi c'est tout d'un coup Judas, alors qu'on est dans l'histoire de Joseph, qui est choisi ici dans cette histoire, et dans une histoire où on peut dire qu'il ne reluit pas de manière spéciale, par opposition à Joseph, qui, le chapitre suivant, va lui faire preuve d'une morale tout à fait impeccable. Voilà donc... Grosso modo, la grande question, la question que je vais aborder aujourd'hui, il va falloir s'accrocher, hein. On n'a pas beaucoup de temps, et je voudrais essayer de vous montrer que pas mal de lignes narratives de la Genèse se croisent, s'entrecroisent dans ce personnage de Tamar, qui va quelque part parvenir à les dénouer. Alors pour comprendre cela, donc, je reviens en arrière, c'est-à-dire au début du livre de la Genèse, pour faire comprendre aussi la trame narrative générale dans laquelle je vais replacer Tamar. Je vous rappelle que, au début, lorsqu'on parle de l'homme, première fois qu'on parle de l'homme, faisons l'homme, dit Dieu, l'homme n'est pas un fait, mais reste à faire. D'après le Midrash Rabba, c'est l'homme qui parle au juste, Dieu dit à l'homme, faisons l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas fait, il doit se faire, et donc il a en avant de lui-même son propre projet. Ce qui veut dire aussi qu'il peut se défaire ou se rater. Bon, dans ce faire, au chapitre 2 de la Genèse, on nous explicite la manière dont l'homme va se faire. Ça comprend deux commandements. C'est la première mitzvah, en fait, qui est une mitzvah double, qui va être donnée à l'homme au jardin d'Éden, qui est de dire, tu vas manger et tu ne vas pas manger. Il faut bien comprendre ces deux parties de la première mitzvah comme deux parties simultanées. Il s'agit en même temps, et vous comprenez la complexité, en même temps de manger et de ne pas manger. Dans tout acte que l'on pose, vous voyez que c'est pour ça que c'est compliqué, il faut que je mange et que je ne mange pas. Le problème, pour vous le dire très rapidement, quand on est à table, il faut que je mange et que je laisse place à l'autre, donc je ne mange pas tout. Pour le dire très simplement. Manger pourquoi ? Alors là, je reprends les deux aussi très rapidement. Manger parce que c'est le lieu où je vais trouver ma place. Il faut que le monde devienne mon monde. Je vous renvoie très rapidement, parce qu'on peut relire Totalité infinie comme une lecture, comme une explicitation de ce premier commandement, aux très belles études de Lévinas sur la jouissance. Le manger, c'est le lieu où je fais du monde mon monde, c'est-à-dire où je finis par m'identifier à ce qui au départ est extérieur à moi. C'est le rabbin Ashkenazi qui faisait remarquer, c'est un jeu de mots, il aimait les jeux de mots, les echol, akol, c'est aleph, kol, c'est tout devient moi, tout devient un. La pomme que je mange, elle est extérieure à moi, et puis en la mangeant, je la rends intérieure à moi. Elle devient moi-même, une partie en tout cas, et l'autre est rejetée. Voilà, donc manger, c'est-à-dire trouver sa place, tout simplement. Faire du monde ma place, mon monde, trouver à travers la jouissance le fait que je ne suis pas là par hasard, mais... je vis et j'aime la vie. Pour le dire aussi d'une autre manière, la vie est un cadeau, croquez-le à pleines dents, parce que si vous ne le recevez pas, ce cadeau n'a pas de sens. Recevoir la vie comme un cadeau, c'est donner sens à la vie, et c'est comprendre donc que si je ne le reçois pas comme un cadeau, la vie peut être absurde. Je suis le destinataire de la vie d'une certaine manière, et il faut donc recevoir cette destination. Voilà. Hein, donner sens à la vie, c'est pas évident. Premier acte, première partie de ce double commandement. Deuxième acte, ne pas manger. Ne pas manger de la relation. Ne pas manger du connaître. Je vous rappelle qu'il y a cet arbre du connaître bien et mal. Qu'est-ce que c'est cette connaissance ? On a déjà travaillé ça plusieurs fois, donc c'est pour ça que je vais assez vite. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance ? La première fois où on trouve ce mot de manière plus explicite dans la Torah, c'est au chapitre 4 de la Genèse. Adam avait connu Ève, sa femme, et elle conçut, enfanta Caïn. Et donc on comprend bien là, à partir de ce verset, que la connaissance dont il est question, c'est la connaissance intime entre un homme et une femme. Donc ce qui est interdit, ce n'est pas la connaissance, sinon on n'aurait pas d'enfant. Ce qui est interdit, c'est de manger de la connaissance. Bien, et si je généralise la connaissance d'abord entre un homme et une femme, de manière plus générale, toute relation humaine, effectivement, comporte un aspect masculin, un aspect féminin. L'aspect masculin, c'est celui qui prend l'initiative, et l'aspect féminin, c'est celui qui reçoit l'initiative. Quand ma femme me téléphone, c'est elle qui est masculine. Et que moi, je prends le téléphone pour lui répondre, je suis féminin. D'accord ? Et donc, toute relation s'inscrit dans ce qu'on appelle le connaître. La problématique étant ayant une relation à l'autre, je ne dois pas utiliser cette relation pour manger la relation. C'est-à-dire me rendre maître de l'autre à travers la relation que j'ai avec lui. Interdiction de, il faut manger de tout si vous voulez, sauf là où il faut que je m'arrête de manger le monde pour le faire mien, c'est précisément autrui. Il faut que j'ai une limite, et que cette limite soit marquée dans chaque acte que je fais, surtout l'acte de mendication, où je puisse me rendre compte que l'autre existe aussi, et donc je ne peux pas tout manger, tout réduire à ma propre jouissance. Je vous rappelle, j'ai reçu ça c'est un rabbin Tversky aux États-Unis qui fait la différence, entre l'amour humain et l'amour, ce qu'il appelle fish, l'amour du poisson. Quand vous dites que quelqu'un vous dit j'aime le poisson, mais il aime le poisson, pas parce que vraiment il aime le poisson, mais parce que le poisson répond à des besoins qu'il a et qui lui permettent, quand il mange le poisson, ça lui permet de remplir ses besoins. De la même manière, on peut comprendre l'amour de l'autre comme la satisfaction d'un besoin, où je mange l'autre comme un poisson. Je suis amoureux de l'autre, pourquoi ? Parce qu'il me renvoie une image agréable de moi, que je me retrouve en lui et que donc je peux faire un parcours de chemin avec lui. Mais c'est un amour fish, et donc un amour self-fish. D'accord ? Or, je rigole, mais on ne nous demande pas d'être fish ni selfish, on nous demande dans la tradition juive, c'est vraiment un jeu de mots, d'être ish, d'être quelqu'un, d'être un homme. Et là où il n'y a pas d'homme, nous dit le Pirkei Avot, tiye ata ish, sois toi-même humain, c'est-à-dire ne mange pas l'autre. Rencontrer l'autre, c'est s'empêcher de réduire l'autre à ce que je voudrais qu'il soit. Et c'est très difficile à faire. La preuve, les relations entre juifs et chrétiens sont aussi, ne sont jamais indemnes de ce genre de tentation. Et c'est bien une tentation toujours perpétuelle. Je voudrais que l'autre puisse être mon rêve, c'est-à-dire le lieu où je m'accomplis. C'est pas faux, mais c'est insuffisant. Voilà, par rapport à cela, on sait bien que cette histoire-là, donc cette exigence-là divine par rapport au premier couple, Adam et Ève, ne marche pas et que tout de suite, ils mangent le fruit, c'est-à-dire ils ne parviennent pas à s'interdire ce qu'il faut s'interdire, c'est-à-dire de manger l'autre, de manger de la relation à l'autre. Le récit biblique nous raconte cela par la suite de cette faute, c'est-à-dire par les enfants d'Adam et Ève, que sont Caïn et Abel, et par l'évidence de l'échec de cette relation entre Caïn et Abel, par le meurtre. Et on a l'impression effectivement que tout le livre de la Genèse peut se comprendre comme l'explicitation et la résolution de cette première fraternité ratée. Caïn tue Abel, c'est une catastrophe. Et on va essayer tout au long du livre de la Genèse de rétablir la fraternité ratée. Si vous lisez les textes, vous verrez tout de suite que à chaque épisode, on retrouve une fraternité, que ce soit Abraham et Lot, par exemple, que ce soit la génération d'après Isaac et Ishmaël, que ce soit Jacob et Ésaü, Ou que ce soit, pour finir, à la fin du livre de la Genèse, Joseph et Judas, Joseph et ses frères, de manière plus générale. Hein, il y a, on remet sur le tapis, hein, le même problème qui finalement, petit à petit, hein, au départ il faut séparer, hein, finalement ben, on parvient à renouer la relation ratée de départ, puisque par exemple, Jacob parvient in extremis à apaiser la violence de son frère. C'est pas très loin avant le passage dont on parle. Et puis, effectivement, l'histoire de Joseph et Judas rejoue cette même violence, cette toujours potentielle, hein, qu'elle parvient, elle aussi, in extremis, hein, à dépasser et quelque part à sublimer, puisque à la fin du livre de la Genèse, mais précisément c'est le happy end du livre de la Genèse, Joseph et ses frères se réconcilient, et même Joseph parvient d'une certaine manière à réaliser son rêve, puisque il devient le centre de sa fratrie, non plus, comme il le pensait au départ, comme un soleil qui éclaire les autres, enfin, par rapport auquel les autres doivent se prosterner, mais comme le serviteur de ses frères, puisqu'il est nourri. Vous voyez qu'on retourne sur dans la fraternité, on retourne le fait de manger, de donner à manger, mais cette fois-ci, précisément, celui qui donne à manger se retire pour laisser manger les autres. Il n'en profite pas pour devenir un potentat tout-puissant, qui réglerait dans tous les détails la vie de ses frères. Voilà la trame générale dans laquelle on peut lire le livre de la Genèse, et c'est important bien sûr pour nous, puisque lorsque nous essayons de remettre en œuvre, après 2000 ans d'échec, la fraternité entre juifs et chrétiens, il faut bien sûr s'inspirer de ces récits pour comprendre toute la complexité et tous les défis que cette fraternité pose. C'est très gentil de se faire des sourires. Il faut comprendre que les enjeux d'une véritable fraternité, qui sont l'héritage, qui sont la manière dont on va partager l'héritage, ne sont pas des enjeux faciles. Hein, et que donc, au-delà de la bonne volonté, il y a tout un travail de fond qu'on a seulement commencé à faire depuis quelques générations et qu'il faut absolument continuer à faire. D'où l'importance, bien sûr, de transmettre et d'avoir des enfants. Mais justement, c'est ça Tamar aussi. Hein, la question de la transmission. Et comment transmettre et faire venir la descendance messianique vers laquelle, aussi bien juifs que chrétiens, nous essayons d'aller, nous, pour la première fois, pour les chrétiens, on essaye d'y retourner. Hein. Voilà, donc, importance de cette fraternité, mais l'épisode de Tamar, précisément, montre un lieu où le texte, la trame du texte, se rompt, et où tout d'un coup, on a l'impression qu'il y a autre chose qui revient, qui refait surface. Une autre logique, une autre problématique, tout aussi importante, mais plus secrète. D'une certaine manière. Et pour comprendre cette déchirure, cette rupture en fait de la trame habituelle et donc cette autre texture qui remonte à la surface à travers l'épisode de Tamar, je pense qu'il est important de faire la généalogie, précisément de remonter du meurtre de Caïn à Abel à l'ordre dont je vous ai parlé, de manger et de ne pas manger. Si on remonte effectivement de la fraternité ratée, on se rend compte qu'effectivement, dès qu'il y a relation entre parents et enfants, c'est-à-dire dans ce cas-ci, entre Ève et Caïn, il y a quelque chose qui est mal parti. Je vous rappelle le verset 1 du chapitre 4 que je vous ai déjà cité. Ce chapitre 1 nous dit la chose suivante. Donc, Adam avait connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis ou j'ai possédé un homme avec l'Éternel, avec la transcendance. » Et elle a continué à enfanter son frère Abel. Ce verset qu'on a déjà travaillé aussi. Je vous rappelle les deux points principaux à mon avis. Première chose, elle a enfanté, on se serait attendu au niveau biblique, elle a enfanté un enfant, Delet Ben, et elle a appelé son nom Caïn. Et ce n'est pas du tout ici ce que dit le verset, ça c'est la formule habituelle. Le verset dit, elle a enfanté Caïn. Ce n'est pas un enfant. Et tout de suite, il arrive avec son nom. Autrement dit, il colle à son projet, il est l'incarnation, la réalisation du projet immédiatement fait. Et non seulement il n'est pas un enfant, puisque dans la phrase qu'elle dit, j'ai acquis un homme, Ish, avec la transcendance, si elle parle de Caïn, dans ce cas-là, il est tout de suite fait. Contrairement à l'homme dont je vous avais parlé qu'il faut faire et continuer à faire, Caïn, il est fait. Et il est possédé, Kaniti Ish, j'ai acquis un homme avec Dieu, il est comme possédé par sa mère. Vous voyez qu'il y a tout de suite un grand problème ici, c'est comme si Ève avait mangé Caïn. Je vais parler de l'interdiction de manger de la relation, mais là, Ève, elle semble tout de suite manger son fils. Elle s'accomplit dans son fils, mais donc son fils est obligé d'être l'accomplissement de sa mère. Et son frère, lorsqu'il naît, c'est son frère. C'est pas Abel, par lui-même. Et elle continue à enfanter son frère. Autrement dit, il arrive, il ne naît que dans l'ombre de son frère. Si vous voulez, vous avez le soleil parfait qui est Caïn, et vous avez l'ombre de ce soleil qui est Abel, et il n'est que le frère de son frère. Donc, dès le départ, vous avez une mère qui a mangé un de ses fils, qui possède son fils, et vous avez ce fils qui va finir par manger son autre frère, puisqu'il n'est que son ombre. Et vous voyez que dans la généalogie de la violence entre Caïn et Abel, cette violence est déjà en germe dans la manière dont Ève enfante ses enfants. Donc il y a déjà, avant la relation, avant le problème de la fraternité, il y a déjà un problème dans la relation enfant-parent. Et quelquefois et souvent, la violence fraternelle est liée à une mauvaise gestion, une mauvaise manière de construire la relation entre parents et enfants. Pour le dire en termes symboliques, hein, vous avez des parents qui sont des ogres par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils mangent leurs enfants. Bien, on a l'impression ici, bien sûr, que c'est Ève, la grande méchante dans l'histoire. Toujours la femme. Hein. Heureusement pour nous, il faut remonter encore avant dans la généalogie. Hein, pour se rendre compte que si Ève ici semble manger, parce que j'ai oublié de le dire, où est le père ? Le père réel a disparu, on ne parle pas d'Adam comme père, alors que le verset le dit, Adam a connu Ève, sa femme, donc c'est bien Adam. Mais une fois qu'il l'a connu, c'est fini, une fois qu'elle a conçu, c'est comme s'il était complètement absent, et à sa place vient la transcendance, Dieu, autrement dit, elle a un fils qui est né de la cuisse de Jupiter. Ce qui est extrêmement grave. Autrement dit, le père est mis complètement de côté, comme si elle avait elle-même mangé la semence de son mari pour l'oublier complètement. Mais il faut comprendre maintenant, donc, une fois que j'ai fait d'Ève la grande méchante, que sa réaction est une réaction face à ce que déjà Adam a fait, d'après le Midrash, hein, qu'on trouve déjà dans les Avot de Rabbi Eliezer. La grande question, c'est quand on remonte dans cette généalogie, le seul endroit où Ève parle, c'est quand le serpent l'interpelle et lui dit « Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a tout interdit ?» C'est remarquable du serpent. « Est-ce que c'est vrai qu'il vous a tout interdit ?» Il a interdit une chose. Donc Ève, naïvement, lui dit « Mais non, pas du tout. On peut manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre qui est au cœur du jardin, on ne mangera pas, car Dieu nous a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, de ne peur que nous mourions. » D'accord ? Or, si vous allez voir le texte, il n'est pas dit qu'on ne peut pas y toucher, il est dit, Dieu dit à Adam qu'il ne faut pas en manger. Donc, une bonne partie des commentateurs disent que c'est peut-être Ève qui a simplement mal compris l'ordre, qui a ajouté. Mais c'est précisément là que le aveu de Rabbi Eliezer nous fait remarquer que ce n'est pas possible. Si elle-même avait ajouté, je vous rappelle le Midrash. Hein, le Midrash nous dit que donc Ève dit on ne peut pas manger, on ne peut pas toucher. Le serpent, entendant ça, pousse Ève, qui touche le fruit, et qui voit qu'il ne s'est rien passé. Et comme il ne s'est rien passé en le touchant, il se dit, bon, ben, c'est la même chose pour manger. C'était une fake news. Dieu avait inventé des histoires. Donc on peut aussi manger, et elle mange. Donc ce que nous dit ce vieux Midrash, c'est de dire non, pas du tout. Donc ça veut dire que ce n'est pas Ève qui a ajouté, c'est Adam qui, en transmettant l'ordre divin, a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu confiance en Ève. Il a cru qu'il fallait faire ce qu'on fait souvent dans la tradition juive, hein, mais pour de bonnes raisons, une haie autour de la mitzvah, une haie autour de la... Hein. Et donc il a cru qu'il a considéré en fait Ève comme quelqu'un d'incapable de s'en tenir à la loi stricte, et il fallait ajouter un interdit. Autrement dit, Adam a mangé Ève en l'infantilisant, en la considérant comme moins que lui. Oui, et ça a traîné dans notre tradition depuis pas mal de temps, hein, comme le célèbre, ce qu'on dit toujours, c'est ce que devait penser Adam à propos d'Ève, Nashim Da'atan Kala. Les femmes ont un esprit, comment dire, léger. Et donc Adam prend des précautions, mais ce sont précisément ces précautions qui permettent à Ève de faire la faute. Et donc on comprend bien ici que s'il y a eu faute, c'est une faute de la relation. Et que si Ève a phagocyté Adam, c'est parce que Adam avait phagocyté Ève. Et que donc, d'une certaine manière, l'un a mangé l'autre, l'autre a mangé l'un. Et on a bien, si vous voulez, la demanducation de l'arbre du connaître bien et mal n'est que la conséquence symbolique nécessaire d'une relation ratée entre Adam et Ève. C'est important, vous voyez, quand je reviens dans la généalogie, on passe de relation fraternelle ratée à relation parent-enfant ratée, relation couple ratée. Comme si l'un était lié à l'autre et que lorsqu'on veut réparer l'un, il fallait penser aussi aux deux autres modalités de relation. C'est important parce que précisément, c'est là que ça nous permet de rebondir sur Tamar. Et Tamar, quelque part, Elle est le lieu où toutes ces problématiques, problématiques mari-femme, problématiques parents-enfants et problématiques frères entre eux, se rassemblent dans un seul récit. Hein, si vous voulez, pour résumer ce que j'ai dit, si les frères sont frères et amis et finissent par s'entruer, c'est parce que leurs parents ont cherché à les réduire à leurs désirs et à leurs projets. Et si les parents ont essayé de faire cela, et de manger donc les enfants, c'est parce qu'entre eux, la relation était mauvaise et violente, chacun essayant de manger l'autre sans le respecter. Si vous voulez, le problème de ne pas manger l'autre, mais c'est compliqué, hein, c'est d'avoir cette relation où entre nous, il y a un abîme infini qui exprime le respect que nous avons l'un par rapport à l'autre. Exactement comme l'image des deux chérubins au-dessus de l'Arche d'Alliance, hein, qui, dans le vide, dans un face-à-face, au creux duquel, dans le vide duquel, seul peut se faire entendre la transcendance. Eh bien, le même problème ici, c'est lorsque dans un couple, il n'y a pas ce respect de base qui permet à une certaine voie de la transcendance de se faire entendre. Voilà, et précisément avec Tamar, Tamar va apprendre, et là on a eu raison de parler du dattier tout à l'heure, Tamar va apprendre à Judas de ne pas manger de l'arbre. Parce que Tamar, c'est le dattier. Et donc ce que Tamar va apprendre à Judas, c'est précisément de ne pas manger du dattier. Un peu comme, et je vous rappelle quand même qu'il y a nous avons une très belle métaphore dans le Cantique des Cantiques, hein, où l'amoureux fou veut précisément monter sur le dattier, pour en jouir des fruits. C'est très explicite à ce niveau-là. Et ici, c'est la même chose, il s'agit de rétablir la relation de couple en interdisant à nouveau à Judas de manger de l'arbre. Et si on comprend cette réparation du couple par l'interdiction de manger de l'arbre du connaître, c'est précisément à ce niveau-là que Judas va pouvoir redevenir père, alors que jusqu'alors cette paternité est une paternité qui a échoué, et qu'il va engendrer des frères, Zérah et Pérez, qui vont s'entendre à tel point que l'un va devenir l'ancêtre du Messie. Et donc non seulement il va réparer le couple, la relation parent-enfant et la fraternité, mais il va aussi, Judas, ça ne s'est pas mis dans le texte, il va être capable de revenir vers son père, à lui, pour d'abord revivre avec lui, et ensuite au moment où l'histoire de Joseph va continuer, au moment où Joseph va mettre à l'épreuve ses frères, c'est Judas précisément, et ce n'est pas un hasard, c'est grâce à ce chapitre 38 et à Tamar, c'est Judas qui va avoir le front de tenir coup et de tenir face à Joseph, pour permettre à Joseph et pousser Joseph dans ses retranchements, pour qu'il soit obligé de se faire reconnaître par ses frères, et ainsi réconcilier les frères et réconcilier les enfants avec leur père. Donc vous voyez bien que cet épisode, il est central parce qu'il joue sur tous les tableaux. Et ce qui va se passer dans la suite entre Joseph et ses frères, c'est lié et dépendant de ce qui se passe entre Judas et Tamar. Maintenant, je voudrais vous montrer comment, parce qu'il faut rentrer dans le texte. Hein. Je vous ai expliqué, j'ai fait une introduction, je vous ai expliqué les tenants aboutissants de tout cet épisode. Maintenant, je vais lire avec vous le texte, voir qu'est-ce qui se passe exactement et comment ça se passe. Donc je rappelle, dans le cycle de Joseph et de ses frères, vous avez ce chapitre 38, qui rapporte cet épisode un peu scabreux entre Judas et Tamar, hein, et tout, en tout cas peu reluisant pour Judas. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence comme ça, verset 1, chapitre 38. Il arriva à ce moment-là que Judas descendit de ses frères. Descendit de ses frères, pourquoi? Pourquoi ces descendants de Judas qui semblent quitter ses frères, hein, et la fraternité en tout cas, et donc sortir de la famille et donc aussi de la relation avec son père et de son projet pour aller ailleurs? Pourquoi? Ben, je vous rappelle au chapitre précédent, les frères viennent de s'allier pour vendre, pour presque tuer Joseph. Joseph l'avait un peu cherché. Bon. Mais lorsque Joseph arrive, donc, le Midrash nous le dit, Shimon et Lévi décident de le tuer. Ils veulent que les frères le tuent aussi. Heureusement, il y a Reuven qui intervient pour dire on ne tue pas, moi le cancienne, et qui dit on va le jeter dans le puits et il ne dit rien d'autre. Donc il le jette dans le puits, mais le jeter dans le puits, c'est qu'il ne tue pas par eux-mêmes, mais dans le puits, on sait que, on vous dit, hein, il le jette dans le puits, et le puits, il n'y avait rien dans le puits, le puits, Vaborek en Bomaim, voilà. Le puits était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Deux fois la même chose. Non, il était vide, mais il n'y avait pas d'eau dedans, donc il y avait autre chose, il y avait des scorpions, des serpents. Ça veut dire qu'on ne le tue pas nous-mêmes, mais on s'arrange pour que l'histoire le tue. Quelques heures dans le puits, et un scorpion et un serpent ne vont pas le rater, et il sera mort quand même. Donc, deuxième intervention, Reuben, en fait, avait l'intention de le tirer avant qu'il ne meure. Mais ça, il ne le dit pas à ses frères. D'accord ? Pendant ce temps-là, il est dans le puits, on pense donc qu'il va mourir. Judas intervient lui aussi, en disant, non, ma bête sainte, quel est le compromis que nous vendions notre frère ? Autrement dit, il n'y a pas de compromis, c'est lui ou nous. Donc Judas cherche un compromis et il propose à ses frères de le vendre. Autrement dit, de séparer de nouveau les voies. On va aller une autre voie et on va s'arranger pour qu'il aille une autre voie ailleurs. Et comme ça, on verra bien ce qui se passera. Donc il cherche un compromis. Malheureusement, de nouveau dans le texte, il y a un autre rebondissement. Pendant que les frères comme ça discutent et mangent, toujours manger, la violence n'est pas loin dans la mendication. Au moment où ils mangent, il y a des Midianites qui passent, qui tirent Joseph du puits, qui le vendent à bas prix à des Ishmaélites, qui le vendent aux Médianites, qui le vendent à Potiphar. Il y a une coalition de fils d'Abraham contre Joseph. Attendez, c'est leur cousin. Hein. Les Midianites, c'est des fils d'Abraham, ils sont cousins de Joseph. Les Ishmaélites, même chose, sont fils d'Abraham, et les Médianites aussi, sont tous trois des fils d'Abraham. C'est des cousins à chaque fois qui vendent Joseph. On comprend, c'est très étrange comme histoire. Donc c'est pas les, au sens strict, hein, au sens pshat du texte, c'est pas les frères qui vendent Joseph, c'est des fils d'Abraham. Vous voyez la fraternité des fils d'Abraham, elle en prend un sérieux coup. Voilà, en tout cas Joseph vendu par ses frères, les frères reviennent dans le puits, Reuven en fait revient dans le puits pour tirer son frère avant qu'il ne meure, il se rend compte qu'il n'est plus là, il déchire ses vêtements, il dit qu'est-ce que je vais faire, moi je voulais rapporter mon frère à son père, où je vais aller. Et à ce moment-là, les frères inventent un stratagème et une mascarade. Ils vont prendre la tunique de Joseph, qu'il avait enlevée au moment où il avait fait descendre dans le puits, et il la trempe dans le sang d'un chevreau, et ils l'amènent vers le père, et ils lui disent, Akerna, reconnais, s'il te plaît, est-ce que c'est la tunique de ton fils ou pas? C'est extrêmement ironique, cet acte des frères. C'est comme s'ils demandaient à Jacob de reconnaître que la tunique a été la cause de la mort de son fils. Regarde la tunique qu'il lui a donnée, bariolée, et une bête féroce l'a dévoré à cause de la tunique. Autrement dit, tu es responsable de la mort de ton fils. Et Jacob reconnaît et il rentre dans une profonde dépression. Il refuse d'être consolé. Il rentre dans une profonde dépression. Pourquoi ? Parce qu'il se considère comme responsable, à juste titre quelque part. Hein. Vous voyez l'ironie ici des frères. C'est vrai que c'est cette tunique bariolée, entre autres, qui a été l'origine de la violence des frères. C'est un impair pédagogique, un impair, c'est joli comme une non-paternité. C'est dur de dire qu'un enfant est privilégié par rapport aux autres. Donc Jacob sombre dans une profonde dépression. Et maintenant, vous comprenez pourquoi on dit que Judas descend de ses frères. Parce qu'il a trempé dans cette sale histoire avec ses frères. Mais lui, contrairement à ses frères, il descend plus bas que ses frères. Autrement dit, les frères essayent de consoler, et puis ça, le temps passe et on oublie un peu l'histoire. Mais Judas n'oublie pas, il déprime lui aussi. Et il descend de ses frères, il descend de cette coalition dans laquelle il a trempé, pour tremper la tunique de son frère, et il déprime. Et il va laisser tout, il veut tout lâcher, tout laisser tomber. Il rentre dans un désespoir, si vous voulez, parce qu'il est rentré dans une mascarade et un stratagème qui lui vont mal et qui lui font mal. Le texte continue dans cette descente, dans sa recherche donc de quitter cette fraternité tachée d'opprobre, et dans son désespoir par rapport à elle et par rapport à son père, il se marie avec une Cananéenne. La fille d'un Cananéen, c'est ce qu'on dit, dont il va avoir trois fils. On se rend compte ici qu'il rompt avec la tradition familiale de nouveau. La tradition familiale, on avait vu avec Abraham par exemple, mais aussi avec Isaac, qu'on faisait très attention de ne pas se marier avec les Cananéens. Il y a d'autres raisons, je ne vais pas rentrer pour ça. Ce qui est important ici, c'est cette rupture. Cette rupture avec la tradition familiale qui est la sienne. Il cherche à rompre avec sa propre tradition familiale et à ouvrir une autre lignée qui aille ailleurs. Donc il a trois enfants, parce que l'autre lignée a perdu le sens pour lui. Et cela tourne mal. Alors, et bien sûr, la petite histoire, c'est qu'il va marier son premier fils à une certaine Tamar. Le dattier dont on vous a parlé tout à l'heure, Tamar en hébreu, c'est le dattier. Il marie son premier fils avec Tamar, pas de chance, son fils meurt. On ne sait pas pourquoi. Il y avait déjà apparemment la coutume du Lévira, donc Judas dit à son deuxième frère, le premier frère s'appelle Er, le deuxième s'appelle Onan, dit, accomplis le Lévira, c'est-à-dire, prends pour épouse Tamar, et le premier fils qu'elle aura sera nommé d'après ton frère. Ce que sachant, Onan n'a pas envie de le faire, et donc il s'arrange pour ne pas avoir d'enfant, et de nouveau, il meurt. Catastrophe. Ne sait pas pourquoi ils sont morts exactement. Mais vous pouvez comprendre ici qu'un père qui est en rupture avec son père a difficile à être père avec ses propres enfants, et que les enfants, quand ils veulent devenir père, ils ne savent pas comment devenir père. Il y a un imbroglio ici, familial, non résolu. Et qui débouche sous la mort. Ici, c'est la famille de Judas, cette lignée nouvelle qu'il essaie de mettre en place, qui se disloque dans la mort. Je vais le dire d'autre manière, symboliquement, il a quitté son père et ses propres fils le quittent aussi. Et Judas prend peur. Il lui reste un fils. Shéla. Selon les Lévira, il donnait son troisième fils à Tamar. Mais il se dit, mais c'est une femme fatale, elle va tuer mon troisième fils. Donc il invente cette fois-ci de nouveau un stratagème et une mascarade en disant à Tamar, écoute, il est trop jeune. Retourne chez ton père. Quand Shéla aura grandi, je te le donnerai. Il a peur parce que, bien sûr, ça ne peut être que la faute de la femme. Ce n'est pas sa faute à lui, hein. Ce n'est pas lui qui a été un mauvais père. Non, non, non. Faute de la femme. Et donc ce stratagème et cette mascarade marche, puisque elle est retournée chez ses parents, elle attend qu'on vienne la chercher. Et vous avez ici, Tamar est ici le premier exemple, malheureusement, on en a beaucoup jusqu'à aujourd'hui, de femme mariée et coincée complètement dans son mariage, puisqu'en fait elle n'a plus de mari, mais elle est considérée juridiquement comme encore mariée, et donc elle ne peut plus faire sa vie. Elle est coincée, c'est une morte vivante. Épisode tragique, dont elle va devoir se sortir par elle-même. Parce que sinon, c'en était fini de sa vie. Et ça, elle va le comprendre. Pourquoi? Parce que les jours passent, elle voit qu'elle n'est pas donnée à Shéla. Et même, les jours passent tellement que la femme de Judas, celle avec qui elle s'était mariée, meurt, et toujours rien se passe. Donc lorsqu'elle apprend que Judas va aller faire tondre ses brebis à Timna, je crois que c'est Timna, je ne me rappelle plus le nom, c'est un autre nom, elle fait quoi? Elle invente un stratagème et une mascarade, comme Judas l'avait fait deux fois déjà, une fois avec ses frères et une fois avec elle. Elle invente un stratagème et une mascarade, elle va se voiler et se faire passer pour une prostituée. Alors on s'attendait dans un récit édifiant, on a parlé de récit édifiant tout à l'heure, que Judas, voyant cette prostituée, ne fait ni une ni deux, il ne la regarde pas et il continue son chemin. Ça aurait été notre ancêtre Judas. Je vous rappelle quand même qu'on est juif, nous judéens, descendants de Judas. On aurait eu un ancêtre plus reluisant que cela. Je me demande comment ce texte n'a pas été censuré. C'est quand même notre ancêtre, quoi. On a eu le temps pour. Non, on l'a pas censuré. Et donc, c'est l'inverse qui se passe. C'est pas du tout un récit défiant. Il ne fait ni une ni deux. Il s'écarte du chemin. Et le verset biblique nous raconte en long, en large, la discussion, tout à fait scabreuse pour le cas, entre Tamar. Alors, il sait pas, elle est voilée. Il sait pas que c'est sa bru, heureusement. Je vous lis. Il lui dit, viens s'il te plaît que je couche avec toi. C'est clair. Hein. Et le texte ajoute quand même à ses défenses, car il ne savait pas que c'était sa bru. C'est la moindre des choses. Elle lui dit, que m'étonneras-tu pour coucher avec moi? C'est pour ça qu'on ne l'enseigne pas aux petits-enfants, cette histoire-là, c'est quand même assez impressionnant. Il lui dit, je t'enverrai un chevreau du troupeau. Elle lui dit, si tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies, évidemment, que vaut ta parole? Il lui dit, quel gage veux-tu que je te donne? Vous voyez, on rentre dans les détails. Elle lui dit, ton cachet, ton fil et le bâton qui est dans tes mains. C'est comme si on lui avait demandé sa signature, sa carte bancaire et son passeport. Non, c'est très important. C'est pas rien. Et Judas est tellement aveuglé qu'il fait ni une ni deux, il lui donne tout. Tellement aveuglé par son désir. On est en train de nous décrire ici un Judas, vous comprenez qu'il est descendu de ses frères, mais là il descend. Hein. Il touche le fond, quoi. Il fait n'importe quoi. C'est du suicide presque. Il se perd pour son désir, simplement. Il les donna, il coucha avec elle, et elle conçut pour lui. Vous voyez l'ironie aussi du verset. Comme si on voulait nous faire entendre que Judas est arrivé au plus bas, hein, puisqu'il est prêt à tout perdre pour un petit moment furtif de plaisir. Hein. Et le texte, et quand je dis tout perdre, on est en train de nous décrire, hein, parce que c'est ça le problème de la prostitution, hein, sûrement dans les textes bibliques, c'est un non-père. C'est quelqu'un qui couche avec une femme, elle peut avoir un enfant, elle va avoir un enfant, mais lui il est parti, il n'est pas père. Il est père réel physiquement, mais il n'est pas père, puisqu'il n'est pas responsable de ses actes. Il pense qu'on peut monnayer ce qui va être en gestation en elle après qu'il l'ait abandonné, comme ça, avec un chevreau. Regardez, c'est le chevreau aussi, vous rappelez le chevreau de la tunique. Il y a plein d'ironie dans ce texte. Hein. Il y a un humour sarcastique à propos de Judas. Est-ce qu'on peut arriver plus bas que lui? Et pourtant, je vous rappelle que ce texte veut dire que Judas sera l'ancêtre du Messie. Mais pas dans ce cas-là, bien sûr. Ici, c'est le non-père, par exemple, donc il ne peut pas être l'ancêtre de qui que ce soit, il n'est pas père. Il est l'inverse de l'ancêtre du Messie. Donc plus bas que ça. Et le texte enfonce encore le clou avec cet épisode plein d'ironie à l'égard de Judas, hein, puisqu'il envoie après son ami pour payer la prostituée. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adoulamite. Il ne veut pas aller lui-même, il a un peu honte quand même. Hein, l'Adoulamite, pour reprendre le gage de la femme. Sympa son copain. Vraiment sympa. Pour faire le sale boulot à sa place. Hein. Donc il envoya son ami l'Adoulamite pour reprendre le gage de la femme, mais il ne la trouva pas. Et il a quand même le courage, son ami. Il demanda aux gens du coin où se trouvait la prostituée d'Enaï. Mais la prostituée ici, ce n'est même pas la prostituée, c'est Kdesha. C'est une prostituée sacrée. Attendez, Judas, ce n'était pas seulement qu'il a couché avec une prostituée, il a couché avec une prostituée sacrée, c'est-à-dire il a participé à un culte idolâtre. On adore ça dans la Bible. Donc il demanda aux gens du coin où se trouvait la prostituée sacrée d'Enaïm, ce qui veut dire les yeux. Ce n'est pas un hasard. Sur la route, mais lui dire, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Quoi tu parles? Il revint donc vers Judas et lui dit, tout honteux, hein, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du coin m'ont dit qu'il n'y avait jamais eu là de prostituée sacrée. Judas lui dit, qu'elle garde donc tout, de peur que nous ne soyons déshonorés. Tiens. Je lui envoie les chevreaux et toi, tu ne l'as pas trouvé. On est donc quitte. Le Midrash a bien compris. Hein. On pose la question, pourquoi on dit que Judas il a été aussi bas que ça? Parce que comme c'est les rois d'Israël qui descendent de Judas, on peut sans arrêt leur rappeler de qui ils descendent. C'est-à-dire, rabaisse cela, s'il te plaît. C'est pas parce que tu es roi, tu sais de qui tu viens. Pourtant, pas né de la cuisse de Jupiter. Trois mois plus tard, on annonce. Judas apprend que sa bru, Tamar, s'est prostituée. C'est-à-dire qu'elle a eu des relations hors mariage. Et qu'elle est enceinte. Son jugement est sans appel. Qu'elle soit brûlée. Puisqu'elle était promise, effectivement, elle était promise à son fils, donc elle était considérée comme mariée juridiquement. Hein, et que donc, elle a, c'est un adultère. Et on se pose la question, est-ce que Judas est sérieux dans cette histoire? Attendez, lui, il ne sait pas qu'il a couché avec une prostituée? Il ne sait pas, bien sûr, que cette prostituée, c'est Tamar, ça, d'accord. Mais il sait bien que lui, il a fait exactement la même chose, ce pourquoi il la condamne, là. Il la condamne, mais si, c'est pareil. Il la condamne pour avoir une relation avec quelqu'un qui n'est pas son père. Or, qu'a-t-il fait? Il a une relation en refusant d'être son père, c'est exactement la même chose. Donc même s'il n'a pas, lui, la conscience que c'est lui qui a fait l'acte, enfin encore, symboliquement, c'est la même situation. Il ne comprend pas, donc il est en train de se condamner lui-même. Vous voyez jusqu'où on peut être aveugle. Hein. Et ce n'est pas pour rien que l'endroit où ça s'est passé s'appelle les yeux. Là où on ne voit rien. Les yeux ou la source, Enaim. Et donc, quelque part, son destin est déjà lié à celui de Tamar. Hein. Celle qui condamne, c'est lui. Ou à travers Tamar qui condamne, il est en train de se condamner lui-même, en fait. Peut-on arriver plus bas dans la dénégation, dans l'irresponsabilité, dans la non-paternité de ses actes? Vous voyez que c'est un problème de paternité. J'ai un enfant, mais ce n'est pas le mien. Attendez, c'est quoi ça? Judas, se faisant, se cache complètement à lui-même et se gâche complètement lui-même. Hein? Parce que s'il va jusqu'au bout de son acte, je vous rappelle, qu'est-ce qui va se passer? Il va tuer Tamar. Il va tuer ses propres enfants dans le ventre de Tamar. C'est-à-dire son propre avenir. Il va tout perdre. Hein? Et on se demande s'il ne cherche pas, en cette manière, en tuant ses fils, à se punir lui-même du fils qu'il a fait perdre à son père. Vous voyez que Judas ici, c'est non seulement celui qui descend très bas, mais il descend très bas pour une bonne raison. Parce qu'il a conscience qu'il est descendu très bas. Il faut comprendre qu'on descend très bas pour pouvoir rebondir. Il est le point symptomatique du lieu où ses frères sont arrivés, mais lui, il va encore plus bas. Et c'est parce qu'il va encore plus bas et qu'il déprime, jusqu'à faire des bêtises innommables, qui va être capable de rebondir, mais quand même. Heureusement pour nous, tout est perdu pour Judas hein, dans cette histoire. Heureusement pour nous, Tamar est là. Et Tamar, la grandeur d'âme de Tamar, la rend, je l'ai dit, une femme fantastique. Elle est centrale dans tout le livre de la Genèse, puisque c'est elle qui va, in extremis, dénouer tous les liens que Judas n'était pas parvenu à dénouer. Et quelle noblesse dans ce geste. En effet, elle est emmenée au bûcher que son propre beau-père, Judas, a ordonné de dresser dans un jugement péremptoire sans appel. Elle se retrouve seule, abandonnée de tous, oubliée et négligée par sa propre famille, Judas. Pire, condamnée par elle, sans qu'un recours ou un appel soit possible. Elle va mourir dans l'ignominie la plus totale, sous le coup d'une accusation qui donne très bonne conscience à ceux qui l'emmènent vers le feu purificateur. Un auto da fé. Elle aurait pu crier, se débattre, accuser de tous les maux du monde ceux qui l'emmènent ainsi à la crémation. Mais elle ne le fait pas. Et c'est là qu'elle est exceptionnelle. En catimini, au dernier instant, elle fait parvenir à Judas les signes de sa paternité, les gages qu'il lui avait donnés, son bâton, son fil, son rotemet. Et avec ces objets, deux mots, haker na. Les mêmes mots que les fils avaient dit à leur père, reconnais s'il te plaît. Reconnais s'il te plaît. C'est pas une formule de politesse, hein, je vous assure. Dans ce cas-là, c'est tout sauf de la politesse. C'est une prière. Reconnais, s'il te plaît. Donc, pas un grand discours moralisateur. Pas une justification de son comportement. Presque rien de mots. Juste la noblesse d'un cri à peine perceptible. Comme la voix d'un silence ténu. Élie au Horeb, au Sinaï. Judas aurait pu passer outre sans que personne ne se doute de rien. C'est vraiment entre elle et lui, hein, c'est ça qui est important dans cette... Et avec sa bruit, ce sont les traces même de sa responsabilité qui auraient disparu. Il aurait été clean, sans tache, honoré par tous, le grand Judas, avec peut-être un arrière-fond de mauvaise conscience, mais bon. Hein, et en plus de cela, il se serait débarrassé de cette femme fatale qu'il craignait. Donc il avait de très bonnes raisons, Judas, de ne pas la reconnaître. Je vais le dire d'une autre manière, hein, il avait toutes les bonnes raisons du monde de ne pas la reconnaître. Presque rien donc, mais est-ce qu'on peut dire plus avec si peu ? Akerna, reconnais s'il te plaît. Hein, c'est un discours le plus puissant de la Bible. Hein. Tout est dit en deux mots. C'est d'une densité absolument incroyable. Tout est dit, vous comprenez, tout est dit dans deux mots, et c'est toute sa vie qui est dans ces deux mots. Hein. Sa vie, la vie de ses enfants, la vie du Messie d'Israël, et la vie de Judas. Tout est là. Deux mots au bout de laquelle la vie de Tamar va se jouer, celle de Judas, celle de ses fils, et celle d'Israël, et celle du Messie d'Israël. Mais elle ne crie pas donc, elle refuse d'entrer dans la violence qui consisterait à imposer à Judas sa propre vérité. Elle aurait pu le faire, hein. Elle convoque un tribunal, elle produit les gages, et elle dit, ben, de lui, donc c'est lui le coupable. Elle ne veut pas le faire, pourquoi? Parce qu'elle veut un mari. Elle ne veut pas un demi-mari. Elle ne veut pas quelqu'un, un mari contraint. Un mari qui est obligé d'être marié parce qu'il n'a pas le choix. Non, elle veut un vrai mari. Je vais le dire d'une manière, elle veut un vrai père aussi. Quelqu'un qui reconnaît ses enfants, pas parce qu'il est contraint de connaître ses enfants, mais parce qu'il reconnaît ses enfants. Donc ce n'est pas le père physique, biologique, c'est le père réel qu'elle veut. Et elle ne veut pas d'un demi-père. Il vaut mieux pour elle mourir avec ses deux enfants s'il n'y a pas de père que de vivre avec un demi-père. C'est quitte ou double. Hein. Ce qu'elle cherche, donc, ce n'est pas la contrainte ou la violence, c'est la reconnaissance librement consentie et l'amour qu'il apporte, bien sûr, cette reconnaissance. Elle veut un mari qui reconnaisse sa responsabilité pleinement et volontairement et ainsi devienne véritablement un père. C'est ce beau risque qu'elle assume. Or, le risque est énorme, je vous l'ai dit, hein, Judas perd tout là-dedans, surtout son honneur. Il doit reconnaître son incarcérat d'abord, pas très facile, on a vu qu'il a quand même honte, et puis il doit reconnaître qu'il s'est trompé du tout au tout par rapport à cette femme, qui lui a fait du mal. Il doit reconnaître aussi, au-delà de ça, qu'il a eu tout faux par rapport à sa propre famille, dont il a désespéré et dont il a voulu se détacher. Pourquoi par rapport à sa propre famille? Mais précisément parce que le Hakerna reconnaît s'il te plaît, fait bien sûr écho au Hakerna que les fils avaient dit à leur père. Autrement dit, Tamar ici demande à Judas de reconnaître sa propre histoire, d'endosser sa responsabilité, plus de descendre seulement, de remonter. De remonter en reconnaissant. Et donc, de faire fi de tous ces mascarades, de ces stratagèmes qu'il a mis, de tous ces voiles dont il s'est voilé la face. Et finalement, il a obligé sa propre bruit à se voiler la face elle-même pour l'obliger à prendre ses responsabilités, à l'attraper lui-même. Hein. Comme lui l'a attrapé, elle l'attrape, mais elle l'attrape, vous comprenez, pas pour l'obliger. Et c'est là qu'elle montre qu'elle n'est pas la femme fatale qu'il pensait qu'elle était. Elle l'attrape pour le mettre dans une situation où maintenant il peut s'en sortir, s'il redevient père et mari. Donc si déjà ne reconnaît pas, tout est perdu sauf l'honneur. Et c'est ce que va faire Judas. Judas, là, rebondit. Hein, c'est la grandeur de Judas, c'est que Judas, on dit, va yaker Yehuda. Judas va reconnaître. Il va sortir de son désespoir grâce à Tamar. Hein, Judas reconnu et dit, je cite, « Elle est plus juste que moi. » Et grâce à elle, il va redevenir lui-même, c'est-à-dire celui qui est capable de reconnaître ses actes, de prendre la responsabilité de ses actes, de se marier, d'avoir des enfants et d'engendrer ses propres enfants. C'est le grand Judas qui va naître dans cette histoire grâce à Tamar. Mais vous entendez, ce lieu où Tamar n'a pas obligé, a juste prié Judas d'enfin être à la hauteur des actes qu'il a fait. C'est-à-dire de devenir lui-même. Mais elle ne peut pas le forcer. Vous voyez que Tamar, ici, est ce personnage absolument génial, qui, un peu comme Dieu avec la première mitzvah, je vous dis ce que c'est construire l'homme, faire l'homme, voilà comment on le fait. C'est double mitzvah, manger et ne pas manger. Mais maintenant, c'est à vous. Je ne peux pas vous contraindre. C'est à vous de jouer. Tamar, ici, se replace dans la situation où Dieu invite l'homme à répondre à sa prière, en fait. S'il vous plaît, réussissez l'histoire dans laquelle je vous introduis. Et Judas va enfin répondre. C'est le grand Judas, c'est celui qui va être capable de faire tomber le voile. C'est le cas. De ne plus se cacher derrière les stratagèmes et les mascarades qu'il a inventés. De renouer donc avec sa propre paternité. D'abord, il va devenir le mari de Tamar. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a encore beaucoup de choses. Ne croyez pas que j'ai tout dit sur ce texte. Je voudrais simplement vous faire entendre le cœur de ce texte. Judas va renouer avec son... Il va devenir le mari de Tamar. Il va devenir le père de ses enfants. Il va remonter vers son père, Jacob, puisque lorsqu'il va y avoir la famine, il va descendre avec ses frères, ça suppose donc qu'il est revenu vers son père, il renoue avec ses frères, et au moment crucial où Joseph les accule exigeant que Benjamin soit fait prisonnier et que donc son père risque de mourir à cause de ça, Judas dit, que nenni, je me mets à la place de mon frère, prends-moi pour esclave à la place de Benjamin, mais que Benjamin puisse retourner vers son père. Il veut que Judas rejoue ici exactement ce que Tamar a fait avec lui. Tamar joue sa vie en disant « Je suis prêt à renoncer à la vie si tu n'es pas capable d'être père. » Et de la même manière, Judas ici face à Joseph dit « Je suis prêt à renoncer à ma vie si, pour faire vivre mon père et que mon frère remonte vers mon père. » Vous voyez qu'il endosse complètement sa responsabilité de frère et sa responsabilité de fils. Face à ce qu'exige Joseph, mais il ne sait pas que c'est Joseph. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, que Joseph comprend que ses frères ne veulent plus le tuer et qu'il peut donc se réconcilier avec eux. Vous voyez que Judas devient ce personnage fantastique qui permet à la fraternité de se réconcilier parce qu'au niveau du couple, il s'est réconcilié avec Tamar et quand donc il a été capable de devenir père. Vous voyez que Judas et Tamar sont ceux qui renouent dans cette petite histoire qui semble marginale, qui renouent tout le récit biblique. Et là où on pensait que tout était fini et que la violence entre frères allait gagner, Joseph était perdu. Il n'y avait pas de réconciliation possible. Ce petit épisode qui est à la marge est en fait tout à fait central. Et on comprend pourquoi ça se termine par la naissance de deux enfants dont l'un va devenir l'ancêtre du Messie. C'est-à-dire que le Messie, c'est celui qui, malgré les déboires et les hauts et les bas de l'histoire humaine, est capable de l'ifrotz peretz, est capable d'émerger de toute cette histoire. C'est-à-dire est capable d'arriver à ce lieu où on peut réparer l'histoire malgré et contre tout ce que l'histoire porte de négatif. Voilà. Donc je vais... C'est très rapide ce que j'ai fait, trop rapide. Mais ça vaut la peine de le faire rapidement même, simplement pour attirer votre attention sur ce personnage que je sens, qui pour moi est exceptionnel, parce qu'elle renoue tous les fils du livre de la Genèse et elle permet à tout le livre de prendre une cohérence et un sens que sans elle, il n'aurait pas eu. Mais je termine simplement en en vous montrant que le fait qu'il est mari, tout ça, ça tourne autour de la notion de responsabilité des actes. Je suis capable d'être là face à l'autre, sans manger l'autre, sans le réduire à mon propre projet, mais en reconnaissant ma culpabilité, c'est-à-dire les lieux où moi j'ai fait des incartades, des défauts, des stratagèmes et des mascarades. D'accord ? Je réponds présent. Ce que nous enseigne cette histoire, c'est que la lignée messianique que nous attendons tous, nous pour qu'il vienne, vous pour qu'il revienne, elle reste fragile dans l'histoire. Il s'en est fallu de rien pour qu'il n'y ait pas de Messie. Il suffisait que Judas ne prenne pas sa responsabilité pour qu'il n'y ait pas Pérez, qu'il n'y ait pas David, et donc pas de Messie. Ça nous rappelle que le Messie que nous attendons ne se fera pas sans nous, et que nous avons une lourde responsabilité, nous juifs et chrétiens, de ne pas nous endormir sur nos lauriers, s'il y en a, de ne pas croire que l'histoire va se faire toute seule sans nous, mais au contraire d'être capable de reconnaître nos fautes, l'un par rapport à l'autre. Et ce n'est pas seulement les chrétiens par rapport aux juifs, c'est aussi les juifs par rapport aux chrétiens. Tout ce qui va mal chez nous, il ne s'agit pas d'utiliser les relations avec l'autre pour cacher notre propre responsabilité, pour cacher ce qui ne marche pas. J'ai parlé de Tamar, cette première enterrée vivante. On a bien des problèmes chez nous aujourd'hui avec des femmes qui sont coincées dans des mariages dont elles ne peuvent pas sortir alors qu'elles n'ont plus de mari. Donc il faut avoir ce courage. Dans la rencontre qui essaye de nous réconcilier, c'est les frères, c'est la lignée messianique qu'on cherche. Il faut avoir le courage de faire notre examen de conscience et d'assumer notre histoire. On a parlé des pères de l'Église tout à l'heure. Ça va tout à fait dans ce sens-là. J'aurais rien dû dire. Je me suis demandé, tiens, j'aurais pas dû parler de Tamar. On a déjà dit tout ce qu'il fallait dire. Mais je le dis d'une autre manière. D'une certaine manière, c'est exactement ça. C'est-à-dire, et les pères de l'Église, il faut qu'on reprenne. Il faut qu'on reprenne tout. On a parlé de Paul. Vous savez que, pour terminer sur une petite blague, c'est que les noms de Paul et de Pierre sont tout à fait cachers. Je peux appeler mon nom devant le rabbin et je l'appelle Paul Ben Yedidia. C'est cacher. C'est écrit dans les Toldot Yeshu. C'est un vieux livre c'est un livre très intéressant pour les historiens. C'est un livre de diatribes et de polémiques en fait contre le christianisme, où on prétend que Paul et Pierre sont tout à fait cachers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont séparé l'église et la synagogue. C'est très intéressant. Donc il est moyen de et vous pouvez avoir un juif tout à fait juif qui s'appelle Paul ben Pierre. Quand il monte à la Torah. Voilà pour la petite histoire. Merci.
Quand tu as parlé justement de Judas qui s'abaisse pour un moment furtif de plaisir, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec Jacob et Ésaü, le plat de lentilles ?
Ah ! Non, non, non. Réponse rapide, mais oui. On pourrait a priori... non, parce que dans le texte, je crois que Ésaü est beaucoup plus sérieux que ça, par rapport à cela. On nous dit bien, Ésaü est aïef. Il est aïef. Et aïef, c'est pas seulement comme on traduit aujourd'hui en hébreu moderne, c'est fatigué. Mais aïef, c'est épuisé. Et je dirais presque, là pour faire le parallèle avec Judas, désespéré. Pourquoi ? Parce que quand tu relis le texte, effectivement, tu sais qu'il y avait 318 serviteurs d'Abraham sous les tentes, donc 318 réfrigérateurs. Chacun avait son épouse, il y avait une table, il y avait des provisions. Donc Ésaü pouvait aller frapper à la porte de n'importe quel de ses serviteurs s'il avait faim. Il n'y avait pas de raison qu'il aille chez Jacob. S'il va chez Jacob pour lui demander un plat de lentilles, c'est parce que c'est Jacob qui doit lui donner le... Autrement dit, et c'est comme ça qu'on comprend cette histoire. Sinon, ça semble une histoire complètement farfelue. Il faut comprendre cette histoire. Ésaü ici vient reconnaître un échec. C'est un homme des champs, mais il a échoué dans les champs. Je dirais aujourd'hui, pour parler le langage contemporain, c'est un économiste, c'est-à-dire un chasseur. C'est comme ça que le Midrash le dit. Un chasseur, c'est quelqu'un qui attrape les autres sans qu'ils le sachent. C'est ça, les économistes. D'accord ? Vous n'avez pas envie de partir en vacances, mais je vais vous convaincre que vous allez partir en vacances. Vous n'avez pas envie d'acheter une voiture. Vous allez acheter une voiture chez moi. D'accord ? Ce qu'on appelle les chasseurs. D'accord ? Et donc, il a joué là-dedans et il est épuisé. Et il se rend compte qu'il n'a plus de force pour vivre. Et qu'il a besoin, c'est Jacob. Jacob a quelque chose qu'il n'a pas lui. Sinon, il aurait été chez le serviteur. Et donc, le plat de lentilles, c'est vraiment Jacob seulement qui peut lui donner. Et c'est pour ça que Jacob lui dit, on a l'impression de lui faire marcher. Non, tu me demandes d'être ton aîné. C'est-à-dire, tu montres qu'ici, tu n'es pas à la hauteur. Tu me demandes, moi, d'être responsable de toi. Ok, on formalise ça et je te donne. Autrement dit, il y a vraiment ici, ce n'est pas seulement un plaisir furtif, comme chez Judas. Chez Judas, c'est pire à ce niveau-là. Ésaü a vraiment une demande, et simplement, Jacob dit, bon, c'est très bien, tu me considères comme ton aîné, donc on formalise ça. Dans le cas de Judas, le texte est vraiment très cru dans la critique de Judas. Et il est très cru dans un sens, il faut comprendre ce qu'il y a derrière cela. Judas, ici, est le parangon de la bonne conscience juridique, derrière laquelle je peux me cacher pour ne pas prendre ma responsabilité. C'est écrit. Je ne peux pas résoudre votre problème. C'est écrit. On sait très bien, et ça, il y a une ironie là-dedans qui est absolument remarquable et qu'il faut jamais oublier. Parce qu'on a le même problème aujourd'hui. Vous avez des rabbins, on vous pose une question réelle et vous dit c'est écrit. Comment ça c'est écrit? Et alors, interprète, fais du midrash, réponds à ma question. Ne te cache pas derrière l'écrit pour faire comme si tu n'avais pas de responsabilité, comme si Dieu avait tout dit et que l'histoire se faisait sans nous. C'est quoi ça comme judaïsme?
Je n'ai pas compris l'allusion que Akerna a été dit par ailleurs. Également, les fils ont dit au père, de quoi
oui,
s'agit-il?
J'ai été très vite. C'est au moment où les fils trempent la tunique. Et donc, ils envoient la tunique à leur père et ils disent « Akerna, reconnais s'il te plaît si c'est la tunique de ton fils ». Avec l'ironie dont j'ai parlé, et effectivement, Jacob reconnaît et dit « c'est ma faute, donc je rentre dans un deuil impossible, infini, c'est-à-dire ». Et c'est deux fois, c'est un chapitre précédent, c'est vraiment l'un par rapport à l'autre. Vous avez un deuxième parallèle qui est important dont je n'ai pas parlé ici, qui est le parallèle entre Judas qui échoue lamentablement avec cette prostituée, et Joseph le juste, qui face à la femme du Potiphar, tient le coup. Très joli, et il y a les deux parallèles, et également le fait que Judas descende ses frères, et le chapitre d'après, on vous dit que Joseph est descendu par ses frères. L'un c'est actif, l'autre c'est passif. Vous avez énormément de jeux de renvoi d'un texte à l'autre qui montrent que ce texte n'est pas hors contexte, même si on a l'impression qu'il l'est, et qui répond bien à toute la problématique du texte lui-même.
Deuxième question qui n'a rien à voir. Pourquoi il y a eu une autre Tamar sous Salomon qui est également assez...
David. Oui, Salomon, là, c'est une fille de David. Pourquoi? Je n'ai pas de réponse. Simplement, c'est un épisode tragique, là, complètement tragique, puisqu'elle se fait violer par son demi-frère. Et que, si je me souviens bien, elle va se... Oui, il est renvoyé. Enfin, c'est une histoire tout à fait. Oui, tout à fait. Ah, mais Tamar, je vous l'ai dit, parce que de nouveau, enfin, à mon avis, pour le dire très rapidement, c'est l'arbre. C'est un arbre, Tamar. C'est l'arbre dont il ne faut pas manger. Quand elle se fait violer, c'est clairement, elle se fait manger. D'accord? C'est ça, manger l'autre. C'est-à-dire imposer mon désir à l'autre sans son consentement et sans son accord. Manger l'autre. Ne pas respecter la distance incompressible qui me lie à autrui, mais qui me lie à travers une séparation que je ne peux pas outrepasser. Dès que je pense que l'autre est ce que j'ai en tête, je suis dans la violence. Dès que je ne parle plus à l'autre, c'est ça que ça veut dire. Dès que je crois comprendre l'autre. Français, je vous ai compris.
Quand vous dites que l'Éternel, quand il a dit ne mange pas, c'est pour ne pas manger l'autre. Il a aussi dit Tamar en parlant de l'arbre.
Non.
Ah bon.
Mais comprenez, Tamar est un arbre. Vous savez qu'on ne sait pas quel est l'arbre dont ils ont mangé. Hein, c'est l'arbre du connaître. Vous cherchez dans tous les fascicules de plantation, etc. Ça ne se trouve pas. Hein, donc on ne sait pas. Alors il y a toutes sortes d'interprétations. Ici, j'ai simplement fait le lien entre il y a un arbre dont il ne faut pas manger et Tamar, par excellence, puisque c'est une personne. Elle porte le nom d'un arbre, mais c'est une personne. On a la tentation de la manger, mais il ne faut pas la manger. On peut monter dans ses branches, comme le dit le Cantique des Cantiques, pour jouir de ses fruits, mais il ne faut pas la manger. Tout à fait. C'est la différence. Hein. C'est-à-dire, il faut comprendre, il y a un renvoi ici entre l'arbre interdit et l'autre arbre interdit. Bien sûr, on peut connaître, hein, de nouveau, l'arbre du connaître. Il n'est pas interdit de grimper, de profiter de son ombre, de faire tout ce qu'on veut avec cet arbre. Simplement, il est interdit de manger de son fruit, c'est tout. C'est-à-dire d'utiliser, je l'ai dit, on ne sait pas ce que c'est se connaître, on n'a jamais trouvé un arbre comme ça, et donc j'ai fait le lien avec le fait que la connaissance au sens biblique du terme, c'est précisément le fait de la relation entre l'homme et la femme. Et donc on peut comprendre que ce qui est interdit, c'est à l'occasion de la relation avec l'autre, la relation par excellence avec l'autre étant celle de l'homme et de la femme, je ne peux pas utiliser cette relation pour manger la relation. Et c'est là le lieu d'expression et d'émergence de la question du bien et du mal. C'est dans la relation à l'autre. Et là, je ne maîtrise pas. Quand vous croyez que vous maîtrisez le bien et le mal, c'est que vous n'êtes plus dans la relation. La question du bien et du mal émerge au cœur de la relation. Et c'est au cœur de la relation que je peux aller vers le bien ou vers le mal, mais je ne le sais jamais à l'avance. Il n'y a pas de truc. Il n'y a pas de parfait petit manuel de morale qui peut vous dire ce que vous devez faire face à l'autre. La morale aide, elle n'est jamais suffisante. C'est pour ça qu'il faut faire une différence entre la morale et l'éthique. L'éthique, c'est ce qui vient à moi de l'autre lorsque je le rencontre. C'est pour ça que, je vous donne un exemple bête, mais c'est un exemple important. Hein. Un médecin peut tuer quelqu'un et c'est éthique, mais ce n'est pas moral. Et si je dois le juger, bien sûr, je dois le juger parce que mais c'est un problème, c'est un vrai problème. Parce que l'acte qu'il a fait peut être éthique. Il a sauvé cette personne d'une souffrance innommable et d'une déchéance, etc. Ouais. Ça peut être éthique. Mais ce n'est pas moral. Et sûrement pas juridique. Sauf si la juridiction est suffisamment intelligente pour laisser des... Mais c'est très dangereux, hein, pour laisser des flous. Parce que tout n'est pas judiciable, je ne sais pas comment vous dire. Il y a parfois, dans les relations humaines, une délicatesse de la relation elle-même que vous ne pouvez pas juger d'extérieur. Oui, on rentre dans des thèmes extrêmement fondamentaux. On n'est jamais au-delà du bien et du mal, hein. Mais l'éthique vous met au-delà de la morale, c'est pas la même chose que j'ai dit. Elle vous met face à la question du bien et du mal, au-delà de la morale, dans le sens consensuel du terme. En général, il est interdit qu'un médecin tue son patient, c'est évident. Mais exceptionnellement, ça peut être nécessaire. Vous voyez, c'est important, hein, de réfléchir à ce niveau-là. Je ne donne pas de réponse ici. Je veux simplement comprendre la question et le fait que... C'est ça que ça veut dire chez Lévinas, c'est très clair. Autrui peut m'obliger à faire un acte que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mais ça, je ne le sais pas à l'avance. C'est dans la relation. Pour le bien ou pour le mal. Hein. Voilà, on est dans les abîmes de la conscience morale ici. Dans la question de...
Pourquoi est-ce que Tamar se voile ?
Ah ben parce que s'il l'avait reconnu...
Ben oui, mais c'est quand même étonnant.
Oui, ça marche très bien, je vous l'ai dit, avec les stratagèmes. Hein. Judas s'est voilé 10 fois dans cet épisode. Enfin, 10 fois, j'exagère un peu. Hein. Il s'est voilé plusieurs fois, il s'est voilé la face. Il a joué de ce que j'ai appelé mascarade et des stratagèmes. C'est-à-dire qu'il a joué du flou. Reconnais s'il te plaît cette tunique, etc. C'est une mascarade. C'est se voiler masqué. Pourquoi ils n'ont pas dit la vérité ? Pourquoi ils se cachent ? Voilà, c'est ça le problème. Et comme Judas se cache aussi par rapport à sa bru, il lui dit non, on va t'appeler. Il se cache. C'est de l'hypocrisie. Eh bien, elle se cache aussi. Alors, bien sûr, c'est nécessaire techniquement pour qu'il ne la reconnaisse pas. Et donc, elle va le forcer à agir comme un père alors qu'il ne veut pas l'être. Et puis après, elle va lui demander, maintenant, sois un père. Je vous rappelle au niveau de Lévira, ce que fait Tamar, lorsque son fils à lui, le troisième, ne lui est pas donné, elle peut, le Lévira, le suivant, c'était lui, Judas. Donc au niveau de la juridiction du Lévira, c'est correct ce qu'elle fait. C'est important de le savoir aussi, ça. Et donc, et c'est pour ça que, d'après certains commentateurs, je n'ai pas eu le temps de rentrer là-dedans, elle se marie avec elle reste mariée avec lui. Hein, et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Oui, alors dans le texte biblique, il y a une. Velo yassaf od ledata. Et il n'a pas. Alors, je traduis littéralement parce que sinon vous ne comprenez pas ce que disent les rabbins. Il n'a pas ajouté de la connaître. Voilà. Il n'a pas ajouté de la connaître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que normalement, on aurait dû en avoir en bon français, il n'a pas continué de la connaître. Donc il y a deux possibilités, soit il n'a pas ajouté de la connaître, il a arrêté, donc soit, disent les rabbins, non, il n'a pas arrêté de la connaître. Il n'a pas ajouté au-delà de la connaissance. Donc il a continué à la connaître, mais il n'a pas ajouté au-delà de la connaissance, il n'a pas mangé de la connaissance, pour le dire. Je vais très rapidement. Mais comprenez, il y a une indécision parce que vous avez effectivement deux autres passages dans la Bible. Le premier, c'est lorsque Moïse va donner de son esprit aux 70 anciens, Vait Nabdou, Velo Yasfou. Ils ont prophétisé et ils n'ont pas ajouté. Alors vous avez les deux interprétations, ça veut dire qu'ils ont prophétisé et puis ça s'est arrêté. Et une autre interprétation des rabbins, parce qu'effectivement le mot est ambigu, ils ont prophétisé et ils ne sont pas arrêtés. Hein, la même chose avec, au chapitre 5 du Deutéronome, Kol Gadol Velo Yasaf, une grande voix, il n'a pas ajouté. Deux interprétations, une grande voix et puis c'est fini. Non, une grande voix et ça ne s'est pas arrêté. Et en général, on retient la deuxième interprétation. Ici, moi, dans la lecture que j'ai faite, je retiens la deuxième pour une raison très simple. C'est que s'il l'a connue et puis qu'il ne l'a plus connue après, elle est de nouveau morte-vivante. Donc je suis obligé de dire non. Il l'a connue et il n'a pas arrêté. Donc ils sont mariés, comme vous l'avez dit, ils vivent heureux, ils ont beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait.
Moi j'ai une petite question. Pourquoi on ne donne pas plus d'importance, ou pourquoi le texte ne donne pas plus d'importance par rapport à la première femme de Judas, Shua?
Ah oui, très bonne question, bien sûr. Ah, mais alors, il faut toujours comprendre ça dans le texte, c'est-à-dire que la femme de Judas, elle est la fille de son père. C'est comme ça que le texte présente la femme de Judas. Elle ne donne pas son nom, elle donne le nom de son père, Shua. D'accord? Ben ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Et les oreilles, c'est-à-dire qu'en fait, cette femme n'est pas importante pour Judas. Elle est importante parce qu'elle est la fille de son père. C'est un mariage de raison, hein, ce qu'on appelle un mariage de raison. C'est-à-dire que ce n'est pas un mariage. Vous voyez, il n'est pas marié. C'est important, merci de votre question. Hein. C'est cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas marié, donc il n'est pas père. Et ses fils qui vont devenir... Intéressant aussi, c'est Judas qui marie son fils avec Tamar. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est un père qui intervient là où il ne doit pas intervenir, qui est trop présent là où il n'est pas, et qui par ailleurs n'est pas un père puisque sa femme n'existe pas. Donc il y a tout un imbroglio, et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce texte, où on voit bien que Judas se marie sans vraiment se marier. Et puis il a des enfants qui ne sont pas vraiment ses enfants. Puis ses enfants meurent, ils ne sont pas capables de devenir père. Et puis il a peur, il prend peur parce que l'histoire se retourne contre lui. Il ne sait plus où il doit aller et puis il fait des bêtises avec Tamar. Et puis Tamar a la sagesse, elle, de le remettre devant ses responsabilités, tout simplement. Et de lui dire, maintenant tu les prends s'il te plaît.